franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, comment fonctionne la drogue dans le monde vivant et particulièrement chez l'homme, avec Pier Vincenzo Piazza, Grand Prix Inserm 2015.
On sait pourquoi elles sont plaisantes et pourquoi les gens les prennent. C'est parce qu'en fait, vont court-circuiter, vont activer de façon chimique, donc plus facile et plus intense, les systèmes de récompense qui sont rien d'autre que les systèmes qui s'activent pour nous faire atteindre un but, pour arriver à quelque chose, et qui nous donnent de la satisfaction quand on arrive à attraper ce que nous cherchons. Si vous voulez, les cerveaux se développent de façon très simple, hein, même les cerveaux très simples. Vous avez quelques neurones qui vous font aller vers de la nourriture en partenaire sexuel, et d'autres neurones qui vous font éviter le feu, l'air si vous êtes un poisson, ou l'eau si vous êtes un mollusque terrestre. Voilà. Donc la drogue va agir sur ces neurones qu'on retrouve pratiquement chez tous les animaux.
Donc on pourrait dire presque de façon un peu provocatrice que la drogue c'est normal dans le règne du vivant alors.
Ah, c'est surtout chez l'homme que c'est normal. Ouais. Dans le sens que, pour utiliser une expression, je sais pas en fait comment il faut le dire, mais disons, s'envoyer en l'air ou changer état de conscience, c'est quelque chose que l'espèce humaine recherche de façon très importante. Et pas qu'avec la drogue. Les sports, la vitesse, les dangers. L'être humain adore exalter son état de conscience, avoir des stimulations très fortes. Et nous dépensons une quantité d'argent énorme pour pouvoir, pas qu'avec la drogue. Et donc, la drogue n'est rien d'autre qu'un autre mécanisme, pas forcément beaucoup plus dangereux que d'autres. Par exemple, vous prenez les skis, c'est quand même une activité assez dangereuse qui n'a pas vraiment une grosse signification évolutive, sauf celle de se donner des sensations fortes. Oui, donc, prendre la drogue de façon récréative, c'est peut-être pas moral, mais normal. À savoir, c'est ancré dans notre espèce.
Mardi, l'importance de l'environnement pour les bébés prématurés avec Bernard Andrieux et Édouard Gentaz.
En fait, l'intérêt de travail sur le prématuré, c'est aussi de s'apercevoir que le corps vivant, finalement, a un certain rapport écologique finalement à son environnement, et que donc dans certaines mesures cette sensibilité va dépendre aussi des capacités de la sensibilité nerveuse, de la façon dont le corps est en contact finalement avec cet environnement, qu'est-ce qu'il perçoit. Et quand on étudie l'histoire aussi des sciences cognitives et de la psychologie, je pense aux travaux de d'Yvette Attwell, Stréry, Lécuyer, etc., toute cette école-là, on voit finalement qu'on reconfigure cet enfant comme un enfant finalement qui a des perceptions dont nous n'avons pas idée, parce que nous avons un corps entre guillemets standard, et donc nous comparons notre corps standard à un corps qui n'est pas du tout standard, qui est beaucoup plus sensible parce que justement il a soit des défauts, soit au contraire une surcompétence dans certains domaines.
Édouard Gentaz, il faut voir que ces stimulations arrivent aussi à un moment pour ces enfants prématurés où le développement cérébral est particulièrement sensible aussi.
Oui, alors d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une mise en évidence de toutes ces compétences sensorielles dans tous les sens, qui sont vraiment établies. Donc du coup, forcément, là on se dit, en fait le bébé prématuré, à la maternité, il perçoit son environnement. Et du coup, les gens se sont dit, attention, c'est pas rien l'environnement qu'on va proposer aux enfants. Et nous, typiquement, on a testé vraiment, on a fait des expériences dans deux environnements. Les vieilles maternités, où c'était des grands espaces ouverts, avec des bruits, mais vraiment hyper stressant, franchement, avec des scopes, des bruits de partout, avec tous les bébés alignés les uns à côté des autres dans des couveuses. Et puis maintenant, on a vraiment radicalement changé, parce qu'on s'est aperçu justement que c'était extrêmement stressant pour le prématuré. Et bien maintenant, c'est plutôt des chambres individuelles, les parents sont là, les bruits sont déportés dans le couloir. Vraiment, on essaye maintenant de pondérer, calmer le système, justement parce que ces enfants sont compétents et qui perçoivent tout au niveau de leur environnement.
Mercredi, comment accepter le changement vers la guérison psychique avec François Roustan et Jean-François Marmion.
L'important, c'est pas tellement de tout sortir, mais l'important, c'est que quelqu'un soit déterminé au changement. Et ça, c'est quelque chose qui s'obtient justement par la déconcertation. Quelqu'un est habitué à avoir des comportements répétitifs. comment faire à un moment pour faire sauter cette répétition et permettre d'inventer de nouvelles solutions.
Ouais. Et on voit qu'il y a un abandon, une perte qui est extrêmement difficile à gérer, au fond, pour celui qui souhaite guérir. C'est d'abandonner tout ça,
oui,
précisément.
Oui, tout à fait, mais on ne change pas tant qu'on n'est pas passé par des moments insupportables. Je pense que ce matin encore, j'avais un monsieur qui est venu me voir et qui vit une petite vie tranquille. Je dis, mais vous n'avez pas envie de changer ? Mais si, je voudrais bien. Je dis, est-ce que vous pouvez parler autrement qu'au conditionnel ? Est-ce que vraiment vous voulez changer ? Ah ben, je ne sais pas, parce que ça a des inconvénients, bien sûr. Donc, on ouvre quelquefois une possibilité, mais la personne n'est pas du tout prête à risquer une modification de ses comportements et de toutes les conséquences que ça pourrait avoir dans sa vie.
Ouais. Et qu'est-ce que vous dites à ces personnes ? Alors, vous dites, bah, écoutez, repassez me voir un peu plus tard quand vous parlerez au présent.
Exactement.
C'est ce que vous leur dites ?
Exactement. Ouais. Je crois que ce n'est pas la peine de continuer aujourd'hui, dans quelques temps peut-être.
Jean-François Marron-Dumont, alors donc sur cet abandon difficile parfois à amorcer.
Bah, pour reprendre la métaphore ultra poétique du hamster, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de la porte. Alors, c'est l'inconnu. Le changement, c'est entrer dans l'inconnu. Parfois, il est plus confortable de rester dans sa souffrance parce qu'au moins elle est connue, puis on s'est construit une identité sociale avec ça. On est dans le rôle de celui qui souffre. On est assisté par des gens, éventuellement. Mmh. Et on ne guérit pas tout seul, on ne change pas tout seul. Il y a des ricochets sur l'entourage aussi. Il y a les gens autour de vous qui peuvent être déconcertés de voir que tout à coup vous allez mieux, qui peuvent se sentir inutiles, qui peuvent avoir l'impression que la situation leur échappe à eux-mêmes. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de considérer qu'au-delà de la porte, il y a de l'inconnu, mais il y a ce qu'on va y apporter soi-même aussi. On va devenir davantage auteur de ce qui nous arrive. C'est un peu comme si on avait un livre de vie. Les premières pages nous plaisent pas beaucoup. Il y a des trucs qu'on n'aurait pas écrits nous-mêmes, mais on n'est pas vraiment l'auteur. Ça a été écrit en partie par les gènes, les parents, l'éducation, l'environnement, les rencontres bonnes ou mauvaises. Mais plus on prend conscience de qui on est, plus on peut redevenir auteur des pages blanches qui restent à écrire dans ce livre.
Jeudi, les premières traces de massacres et de conflits au Néolithique avec Sophie de Beaune et Jean-Paul Demoule.
Oui, alors effectivement, au Paléolithique supérieur, on a quelques exemples isolés d'individus, mais ça peut être des règlements de compte individuels. Et effectivement, à ma connaissance, le plus ancien site, c'est entre 10 et 12 000 ans, c'est Djebel Saaba, le site 117, qui est en fait au Soudan, et qui est au bord du Nil, pas très loin des rives du Nil. Et là, il s'agit véritablement d'un massacre, puisqu'on a des femmes, des hommes et des enfants, des gens de toute classe d'âge, et certains présentent une vingtaine d'armatures de flèches dans le corps. Ouais. Ça veut dire que, alors on a fait des études balistiques sur les corps, les gens ont été tués, ils couraient, et donc on leur a tiré dans le dos, il y en a qui sont tombés à terre, et on a continué à leur envoyer des flèches alors qu'ils étaient déjà morts. Donc c'est vraiment une volonté d'annihilation d'une population, puisqu'on tue les hommes, les femmes et les enfants, et les vieillards.
Oui. Marc demande, est-ce que la multiplication des contacts entre groupes d'hommes n'a pas favorisé justement l'apparition de conflits autour de convoitises ou de jalousies ? Mais comment on peut le savoir, ça ?
Pas jalousie, non, mais territoire, oui. On voit qu'effectivement...
La promiscuité crée les conflits ?
Forcément, parce que le nombre d'humains en Europe, il y avait sans doute quelques dizaines de milliers d'humains, à partir du moment où l'agriculture et l'élevage apparaît, on passe tout de suite à 2 ou 3 millions de quelques siècles d'agriculture. Donc on voit que les villages se mettent sur des hauteurs nettement moins confortables, s'entourent de fossés, de palissades, on a les traces de blessures, etc. Donc c'est des problèmes de territorialité, d'autant plus que dans un premier temps, plus ce front pionnier qui vient du Proche-Orient avance, les villages vont rester petits. Dès qu'un village est trop grand, une partie de la population va plus loin. Mais quand ils butent contre l'Atlantique vers moins 4500, eh bien là, jusqu'à Christophe Colomb, faudra vivre dans le même espace. Et donc, faire des gains de productivité, trouver de nouvelles techniques. Et donc, c'est le début des ennuis.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.